Chapitre 12. Commencement de la fin, deuxième étape. Quoique levé de fort bonne heure, Oscar fut encore plus matinal que moi. Il était sorti du presbytère pour aller troubler le sommeil de Goutteridge en demandant à l'auberge les clés des sables. À son retour, il me dit simplement qu'il était allé chercher divers objets à lui appartenant, qu'il avait laissés dans la maison. Son air et ses manières, lorsqu'il me donna cette explication, me parurent moins satisfaisants que jamais. Je ne dis rien, mais, voyant que son pardessus de voyage était boutonné tout de travers, je le lui arrangeai. Ce que faisant, ma main vint à toucher la poche de côté de son paletot. Aussitôt, il se recula vivement, comme s'il y avait eu quelque chose dans cette poche qu'il voulut dérober à ma vue. Était-ce là l'objet qu'il avait apporté des sables ? Nous partîmes, en parvenant non sans peine, à nous débarrasser de M. Finch, qui voulait absolument s'attacher à Oscar, par le premier train express qui nous mena droit à Londres. En consultant les heures de départ des trains, je vis que j'aurais le temps de faire une courte visite à Hergrosse avant de continuer notre voyage à Sydenham. Étant résolu à ne faire part à Oscar des mauvaises nouvelles touchant la vue de Lucille qu'après avoir vu mon Allemand, je prétextai je ne sais quelle affaire et, prenant une voiture, je laissai mon compagnon dans la salle d'attente de la gare. Je trouvai Grosse cloué sur son fauteuil avec son pied goutteux enveloppé dans des feuilles de choux fraîchement cueillies. Partagé comme il l'était entre la souffrance et l'inquiétude, son jargon était devenu plus grotesque et ses yeux plus égarés que jamais. Quand j'apparus à la porte de sa chambre en lui souhaitant le bonjour, il me montra le poing dans son impatience fébrile. « Bonjour, Cottam !» me cria-t-il en rugissant. « Où est la bedaine de Lucille ?» Je lui dis que nous espérions découvrir sa retraite. Grosse tourna la tête et montra le poing à une bouteille placée au-dessus de la cheminée. « Prenez cette bouteille, dit-il, et le pain d'œil qui se trouve à côté. Ne restez pas à dire toute faux paliferne, allez-vous-en et sauvez-lui l'affût. Tenez, vous faites ceci, vous lui rejetez la tête, ainsi. » Expérimentant sur lui-même, il releva la tête avec tant de vigueur qu'il secoua son pied goutteux, ce qui lui arracha des hurlements de douleur. Il continua cependant, tout en me regardant à travers ses lunettes avec des yeux féroces et en mordant sa moustache avec rage. « Rejetez-lui la tête, remplissez le pain d'œil, renversez-le sans dessus, sans dessous, sur ses œils et noyez les pieds dans le mélange. Noyez les pieds l'un après l'autre. Si elle crie, ne faites pas attention. Puis, amenez-la-moi ici. Pour l'amour de Dieu, amenez-la-moi ici, même si vous devez lui attacher biais et mains pour me l'aborder. Ah ça, qu'est-ce qu'elle attend, cette femme ? Allez-vous-en tout de suite. » Je désire vous faire une question à propos d'Oscar avant de partir. Il saisit un de ses oreillers dans l'intention de me le jeter à la tête. Je tirai l'indicateur des chemins de fer pour m'en faire un bouclier. « Regardez-vous-même, lui dis-je, et vous verrez qu'il me faudra attendre à la gare si je n'attends pas ici l'heure du train. » J'éprouvai quelques difficultés à lui faire comprendre qu'il ne m'était possible de partir pour Sydenham qu'à une certaine heure et qu'ayant à attendre 10 minutes au moins, j'aimais mieux les passer avec lui qu'à la gare. Il ferma ses gros yeux et, complètement épuisé, il inclina sa tête sur le dossier de sa chaise. « Peu importe ce qui arrive, il faut qu'une femme, elle remue sa langue. Allons, faites aller la faute. » « Je me trouve dans une situation fort difficile, lui dis-je. Oscar m'accompagne pour retrouver Lucille. Naturellement, je ferai en sorte qu'il ne se rencontre pas avec Nugent autre part qu'en ma présence. Mais j'hésite encore à l'égard de Lucille. Ne dois-je pas la préparer à cette entrevue ?» « Quelle fois le diable lui-même s'y fout le foulet !» gronda Hergrosse, « pourvu que vous ameniez Mademoiselle Finch ici ensuite. Vous ferez mieux de préparer Oscar. Elle n'a pas besoin de préparation. Il lui a fait éprouver assez de désappointements comme cela. » « Lui, je ne vous comprends pas. » Il s'enfonça dans son fauteuil d'un air fatigué et me raconta, d'un ton plus bas et plus triste, la conversation qu'il avait eue à Ramsgate avec Lucille, conversation que j'ai reproduite dans le journal de la jeune fille. J'appris pour la première fois le changement survenu dans ses sentiments et qui avait été la cause de tant de mortification et de chagrin. J'appris qu'elle ne ressentait plus un frisson de joie à parcourir tout son être lorsque Nugent lui prit la main lors de leur rencontre au bain de mer. Ceci me sembla de mauvais augure. J'appris aussi qu'elle avait été son désappointement amer en comparant ses traits avec ceux du charmant idéal que son imagination avait évoqué alors qu'elle était aveugle. « J'étais heureuse, disait-elle, quand je n'étais que la pauvre mademoiselle Finch. » « Assurément, dis-je à l'oculiste, le sentiment qui s'est effacé dans son cœur reparaîtra en voyant Oscar. » « Jamais, même si elle pouvait voir 50 Oscars !» Je ne sais si les paroles de Herr Grosse produisirent en moi de l'inquiétude ou de l'irritation, mais le fait est que je continuais à combattre son opinion. « Vous ne me direz pas, répliquai-je, qu'elle éprouvera le même désappointement à la vue d'Oscar ?» Je ne pus achever. Herr Grosse m'interrompit sans aucune cérémonie. « Je vous dis, absurde femme, que ce sera beaucoup pis. Ne vous ai-je pas dit qu'elle a éprouvé un immense désappointement lorsqu'elle a fui le frère qui a le teint si beau ? Jugez ce que ce sera quand elle apercevra le frère qui est si laid avec sa figure bleue. Je vous le dis, elle trouvera que le vrai frère est le plus fourbe des deux. » Je l'interrompis avec indignation. Lucille pourra certes éprouver du désappointement en voyant le visage d'Oscar, mais ce sera tout, car sa main lui dira quand il la touchera qu'elle n'a pas, cette fois, affaire à un imposteur. Sa main ne lui dira rien du tout, pas plus que la vôtre. Je n'ai pas eu le cœur assez dur pour le lui dire, comme je vous le dis, lorsqu'elle m'a fait la même question. Taisez-vous et écoutez-moi. Tous ces petits frémissements qu'elle ressentait en lui touchant la main avait lieu alors que son toucher remplaçait ses yeux. À partir du moment où elle a pu exercer ses yeux, elle a perdu l'exquise délicatesse de son toucher. Comprenez-vous bien ? C'est une sorte de troc entre la nature et cette pauvre fille. Je vous prends l'affût, mais je vous donne un toucher délicat. Je vous rends les yeux, je vous reprends votre toucher. So, voilà, c'est clair comme vous foyez. Je me sentis trop mortifié pour répondre à Herr Grosse. Malgré tous nos malheurs, j'avais foi dans le retour d'Oscar comme le seul moyen de rendre le bonheur à Lucille. Cet espoir était anéanti. Je gardai le silence, regardant d'un air morne les dessins du tapis. Grosse prit sa montre. « Vos 10 minutes sont écoulées, dit-il. » Je restai dans la même position, sans faire attention à ses paroles. Ce que voyant, il roula de gros yeux terribles derrière ses gigantesques lunettes. « Allez-vous bien vite, vous en allez ? » me cria-t-il d'une voix assourdissante. « Allez-vous rester à jacasser, tandis que ses yeux sont en danger ? Je vous donne ma parole d'honneur qu'il y avait, il y a quelques jours, un danger sérieux pour sa fille, et cela parce qu'elle s'est tourmentée et qu'elle a tant pleuré avec ses sacrées bêtises d'amour. « Voulez-vous que je vous jette un gros oreiller en plein sur la figure ? Eh bien, filez ou je fisse à la tête. Partez, partez et ramenez-la-moi afin la nuit. » Je m'en retournai à la gare. Je crois bien que parmi toutes les femmes que je rencontrais dans la rue, il n'y en avait pas une qui eût le cœur aussi triste que moi. Pour aggraver encore les choses, mes compagnons de voyage qui m'attendaient, l'un au buffet de la gare, l'autre sur le quai, firent à ma relation de ce qui s'était passé chez Grosse un accueil qui me désappointa et me découragea sérieusement. La vanité égoïste et cruelle de M. Finch ne lui fit trouver dans le malheur qui menaçait sa fille que matière à compliment sur sa propre clairvoyance. « Vous souvenez-vous, Madame Pratolungo, dit-il, que je me suis opposé dès le début et que j'ai protesté contre l'opération entreprise par ce Grosse parce que j'y voyais une intervention mondaine dans les desseins d'une providence impénétrable. Qu'est-il arrivé ? On a méconnu mon influence paternelle, mon poids moral a été, pour ainsi dire, jeté de côté. Et maintenant, voyez le résultat. Prenez-en note, ma chère amie, et que ceci vous serve de leçon. » Il poussa un gros soupir d'un air content de lui-même et, se tournant vers la dame qui servait au buffet, il demanda une autre tasse de thé. Je fus encore plus découragé, je dirais même effrayé, lorsque je fis part à Oscar de l'état critique où se trouvait Lucille. J'ajouterai ceci au compte que j'ai à régler avec Nugent, dit-il d'un air vindicatif, sans laisser échapper la moindre parole de sympathie ou de chagrin. Nous partîmes pour Sydenham. De temps en temps, je regardais Oscar, qui s'était assis en face de moi, pour observer les changements de sa physionomie à mesure que nous approchions du but de notre voyage. Il gardait le même silence de mauvais augure et la même réserve singulière. À part l'accès de fureur qu'il avait saisi tout à coup en recevant de M. Finch la lettre de Nugent, Oscar n'avait pas montré ce qui se passait au fond de son âme depuis notre départ de Marseille. Lui, qui pleurait comme une femme au moindre chagrin, n'avait pas versé une larme depuis le jour fatal où il avait découvert la trahison de son frère, de ce frère qu'il idolâtrait, à qui il avait voué une sainte reconnaissance et un amour sans bornes. Lorsqu'un homme du caractère d'Oscar s'abîme dans ses pensées pendant des jours entiers, ne demandant ni conseil ni marque de sympathie, et tout cela sans exhaler la moindre plainte, c'est qu'il se passe en lui quelque chose de grave. Il y a en cet homme des forces cachées qui s'accumulent pour venir ensuite éclater à la surface, soit pour le mal, soit pour le bien, mais toujours d'une façon exagérée. J'eus la certitude, en examinant Oscar derrière mon voile, qu'il jouerait dans les événements où tant de passions contraires allaient se choquer, un rôle dont je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Nous arrivâmes à Sydenham et nous descendîmes dans l'hôtel le plus voisin. La présence des autres voyageurs dans notre wagon nous avait empêchés de nous concerter sur la manière la plus prudente d'aborder Lucille. Cette grave question devait être vidée immédiatement. Nous nous assîmes pour en conférer dans la chambre que nous avions retenue à l'hôtel.